ce matin, nous allons marcher, mais de façon figurée. Nous allons marcher dans les pas de Jésus. Nous sommes toujours dans la découverte de Jésus. Et je vous invite à prendre votre Bible, à l'ouvrir dans l'évangile de Jean, chapitre 5. Alors, soit dans votre Bible version papier, ou sur votre téléphone, votre application. L'évangile de Jean, chapitre 5, nous allons passer quelques minutes à examiner la fin de ce chapitre. Et peut-être vous allez dire, mais enfin, on va passer par la suite à un autre chapitre, parce que ça fait déjà 3 semaines. Aujourd'hui, c'est la 3e semaine où nous sommes dans... 3e ou 4e, au moins 3e, nous sommes dans ce chapitre. Et nous sommes à la découverte de Jésus. Ce que nous allons voir aujourd'hui à partir de verset 31, c'est son attitude face au rejet, face à l'opposition. Puisque, remettons-nous un peu dans le contexte, Jésus, début du chapitre 5, il avait fait un miracle. Il avait guéri un homme qui, pendant 30 ans, espérait être guéri. Alors, moi, j'ai à peine 30 ans, donc un peu plus. J'ai du mal à imaginer, pendant 30 ans, avoir une maladie très grave. Mais cet homme l'avait, et Jésus le guérit, gloire à Dieu. Et à cause de cette guérison qui s'est passée le sabbat, alors là, un grand scandale parmi les chefs religieux, vous le savez. Et à partir de verset 17, il y a cet échange entre les chefs religieux, cet homme qui avait été guéri, Jésus, qui par la suite, on découvre que c'est lui qui a fait le miracle. Et on commence à le questionner, on veut savoir, et Jésus répond. Et maintenant, à partir de verset 31... jusqu'à la fin du chapitre, verset 47, là, Jésus va continuer sa discussion, son échange avec ses chefs religieux pour nous montrer comment lui, il fait face au rejet et à l'opposition. Et c'est extrêmement instructif pour nous aujourd'hui, puisque malheureusement, nous vivons dans un monde hostile. Nous vivons dans un monde où les gens ne veulent pas entendre parler de notre foi, ne veulent pas entendre de notre Jésus, comme ils vont le dire. Non mais votre Dieu, votre Jésus, moi je n'ai qu'à faire, je vis ma vie tranquille et puis voilà, c'est tout. Chacun croit un peu ce qu'il veut et chacun se laisse tranquille et tout ira bien. Ah mais non. Et nous voyons ici, à travers ces versets que je vais lire dans quelques instants, que Jésus va nous donner plusieurs principes dans ces versets qui vont nous aider aujourd'hui. Alors, suivez avec moi, verset 31, je vais faire la lecture jusqu'à la fin du chapitre. « Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé une délégation vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. » Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles ? Alors, prenons quelques instants, prions, remettons ces moments entre les mains de Dieu. Oui, Seigneur, nous te remercions pour ta parole, pour l'exemple de Jésus, et nous demandons ton aide, que tu nous ouvres l'intelligence pour comprendre ce que tu as dans ces versets, dans la vie de Jésus qui nous est racontée ici. Et Seigneur, que tu continues d'accomplir cette œuvre que tu as commencée en nous, que ton plan parfait continue de s'accomplir et en tout, que tu puisses être exalté et glorifié. En ton nom. Amen. Ici, dans ces versets, bien sûr, Jésus, il fait face à ces chefs religieux qui étaient très instruits, qui, pour la plupart d'entre eux, avaient, nous allons dire, avaient fait beaucoup d'études, qui, quelque part, savaient de quoi y parler, étaient des chefs de synagogue, sûrement, étaient des personnes qui enseignaient les autres, étaient des personnes qui pouvaient impressionner. C'étaient des personnes vers lesquelles on allait pour recevoir instruction, pour savoir ce qu'il fallait faire à tel ou tel moment. Et maintenant, Jésus se trouve face à eux et quelque part, il leur dit « Mais vous êtes sur un mauvais chemin. vous êtes en fait dans la mauvaise direction. » Et vous faites mal, vous comprenez mal, et vous devez changer de voie. Et on dit, mais Jésus, c'est normal, c'est Jésus, il est le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même, il a toute autorité, cette autorité lui vient de son Père et tout, donc c'est normal pour lui. Alors tant mieux pour Jésus, mais voilà, moi, 21e siècle, petit être que je suis, et moi doublement, petit que je suis, peut-être je ne suis pas très instruit, je n'ai pas fait beaucoup d'études, peut-être je ne connais pas aussi bien la Bible que je souhaiterais, ou peut-être que quelqu'un d'autre, et voilà, parfois je me trouve face à des gens qui sont hostiles, des gens qui ont plus de connaissances que moi, des gens qui m'impressionnent même, et qu'est-ce que moi je pourrais faire ? À ce moment-là, je me tais, je ne dis rien parce que, je ne sais pas trop quoi dire, je ne sais pas comment agir, et si jamais je me trompe, à ce moment-là, je serai quelque part responsable pour ces gens. Est-ce que vous suivez un peu le raisonnement ? N'est-il pas vrai que nous pouvons avoir ce genre de raisonnement, et si nous sommes honnêtes, peut-être nous l'avons eu tous à un moment ou à un autre. Et Jésus, à travers ces versets, nous montre plusieurs choses qui sont extraordinaires et qui nous aident. Parce que nous allons toujours pouvoir trouver quelqu'un qui est plus instruit que nous, n'est-ce pas ? Nous allons toujours pouvoir trouver quelqu'un qui a fait plus d'études, qui, à nos yeux, est plus intelligent, qui semble être mieux placé que nous. Et face à cela, qu'est-ce que nous devons faire ? Et ce qui est extraordinaire, on commence avec le verset 31. Jésus, Fils de Dieu, Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il fait ? Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il aurait pu dire « Je suis Dieu ». Et il va le faire à plusieurs reprises. Il aurait pu faire appel à sa divinité en disant « Mais croyez en moi parce que je suis Dieu. » Et il va faire ça à différentes reprises. Mais ici, il s'y prend autrement. Si c'est moi qui rends témoignage de moi, mon témoignage n'est pas vrai. Et dans la logique des hommes, cela est tout à fait raisonnable. Si je rends témoignage de moi, vous allez dire, mais qui êtes-vous ? Pourquoi est-ce que je dois écouter ? Et d'ailleurs, les gens auxquels nous pouvons être confrontés dans ce monde, les gens qui rejettent Dieu, qui ne croient pas à la Bible, Les gens qui disent, mais vous avez votre religion, votre Dieu, votre Bible, voilà, pourquoi est-ce que je devrais vous écouter plus qu'un autre? Pourquoi le christianisme biblique plus qu'un autre? Et Jésus démarre ici en disant, bah, si ça vient simplement de nous, les gens, ils ne devraient pas nous écouter. Si la Bible, si, entre guillemets, notre religion, nos croyances sont uniquement basées sur les choses qui ont été inventées par les hommes, ben, on ferme la Bible, on rentre chez soi, on n'a rien à faire ensemble. Vous le savez. Et il faut être convaincu déjà soi-même que ce que nous avons, ça ne vient pas de nous. Ce n'est pas parce que je suis le plus intelligent que moi je suis là. Ce n'est pas parce que vous êtes meilleur que les autres qui sont autour de nous que vous êtes là ce matin. Vous le savez. Mais c'est bien de le rappeler parce que nous avons peut-être tendance à l'oublier. Pourquoi avons-nous quelque chose à dire? Pourquoi avons-nous quelque chose à proposer au monde qui est autour de nous? Et pourquoi est-ce que Jésus était là en train de parler à ces chefs religieux qui le refusaient, qui faisaient de l'opposition, qui disaient « Mais arrêtez, ce que tu fais n'est pas bien. » C'est parce que Jésus savait que ce que lui, il avait, ne venait pas de lui, mais venait de son Père. Et c'est ce qu'il explique. Verset 32, « Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. » Verset 34, « Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés, délivrés. » Parce que ces personnes, ces chefs religieux, avaient besoin d'être sauvés. Et verset 36, « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a données d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. » Jésus est en train d'expliquer que son autorité pour leur expliquer ces choses et pour leur dire que ce qu'ils faisaient était mal, qu'ils devaient changer de vie, de conduite, qu'ils devaient finalement venir à la vérité, son autorité ne venait pas de lui-même. Alors qu'il était Dieu, il est Dieu, il aurait très bien pu dire, mais non, il dit, j'ai une autorité même encore plus grande que moi. Et cela est le cas d'autant plus pour nous aujourd'hui. Pourquoi est-ce que les gens autour de nous devraient nous écouter lorsque nous leur parlons de la Bible et de Dieu? Ils vont dire, mais ça c'est votre opinion, et c'est ce que vous croyez. Tant que vous êtes sincère, c'est très bien, mais moi, ce n'est pas mon cas, disent ces personnes. Alors, c'est très bien pour vous, mais ce n'est pas pour moi. Et Jésus nous montre ici que nous devons constamment rappeler que ce que nous annonçons ne vient pas de nous. Ça vient de Dieu. Et lorsque nous partons de cette base, cela nous donne une assurance. Face à des gens qui sont mieux instruits, face à des gens qui peuvent s'exprimer peut-être mieux que nous, qui ont fait plus d'études, qui peuvent nous impressionner. Cela nous aide à dire tout simplement, voici ce que Dieu, lui, il a dit. J'aime bien cette image que quelqu'un a donnée une fois. Vous prenez une arme à feu, vous le pointez à quelqu'un, et vous dites à cette personne, comment est-ce que vous pouvez savoir si cette arme est réelle? Quelle est la preuve que cette arme est réelle? Ben, si je tire. Là, si je tire, la personne va savoir que l'arme est réelle, n'est-ce pas? Et la personne peut croire ou pas. Mais ça ne change rien à la réalité. Et notre arme, c'est la Bible. C'est ce que Dieu dit. Ce ne sont pas nos opinions. Ce n'est pas l'éloquence que nous pouvons avoir, ou même le manque d'éloquence que nous pouvons avoir. Non, notre base, c'est Dieu. Et Jésus lui-même, il nous le montre. Il dit, je ne rends pas témoignage de moi. ce n'est pas moi. Ne croyez pas simplement en moi en tant que tel, dit Jésus, bien que, bien sûr, soyons clairs, il faut croire en Jésus. Il est Dieu. Il est le seul sauveur. Mais il dit, Dieu est celui qui m'a envoyé, le Père, et c'est lui qui témoigne de moi. Et surtout dans notre contexte français aujourd'hui, dans ce climat, ce contexte, cette culture européenne qu'on appelle post-moderne, alors où on va remettre tout en question, tout est bouleversé, chacun il a sa vérité, l'un dit une chose, mais c'est tout aussi valable que l'autre. Tous les chemins mènent à Dieu, chacun croit ce qu'il veut, et voilà, il n'y a pas d'absolu. Tant qu'on croit, c'est bon, tant qu'on est sincère, c'est tout ce qui compte. Et toutes ces choses vont à l'encontre de la Bible, vous le savez. Et en tant qu'enfants de Dieu, si nous le sommes, nous ne devons pas être déstabilisés lorsque les gens en face de nous ne croient pas, entre guillemets, en nous, nous refusent, nous font de l'opposition. Nous devons toujours rappeler que notre témoignage vient de Dieu. Et que les autres le croient ou pas, ça ne change rien à la réalité. Dieu n'a pas besoin de la foi en lui pour être vrai et pour exister. Même si personne ne croyait en Dieu, Dieu existerait. Dieu est là et c'est lui qui nous rend témoignage, tout comme il a rendu témoignage à Jésus. Et ce qui est encourageant dans l'exemple de Jésus ici, c'est qu'il continue de diriger les regards des gens vers Dieu. Jésus savait que le problème réel de ces chefs religieux n'était pas le fait qu'ils avaient mal compris le sabbat, n'était pas le fait qu'ils manquaient de compassion envers cet homme qui avait été guéri, n'était pas le fait qu'ils se tenaient à tous les rites et les lois de la loi de Moïse. Non, leur problème réel, c'est qu'ils étaient passés à côté d'une relation avec Dieu. Et Jésus continuait de leur rappeler cela. Et aujourd'hui, pour nous, en nous inspirant de l'exemple de Jésus, les gens autour de nous, leur problème réel n'est pas qu'ils ont du mal à boucler leur fin de mois parce que leur salaire ne répond pas au coût de la vie. Ça, c'est un problème réel, mais ce n'est pas le plus grand problème que les gens autour de nous, ils ont. Ce n'est même pas notre plus grand problème. Le problème le plus grand des gens autour de nous n'est pas l'injustice qu'ils subissent au travail. Bien que ça, c'est un problème. C'est un réel problème. Et Dieu est un Dieu juste et il veut que nous soyons pour la justice. Mais ça, ce n'est pas le plus grand problème. Le plus grand problème des gens autour de nous n'est pas les tensions dans la famille. N'est pas la décomposition de la famille, divorce et autres. Non, ce n'est pas le plus grand problème, bien que ce soit des problèmes très graves. Le plus grand problème n'est pas la maladie, quel qu'il soit, le cancer ou autre, bien que ce soit des problèmes graves. Non, le plus grand problème, c'est que les gens rejettent Dieu. Et qu'ils se rendent compte ou pas, ils vont à leur destruction parce qu'ils rejettent Dieu. Et Jésus, dans ce passage, nous montre que lui, il annonçait la vérité parce qu'il savait que Dieu, son Père, était derrière lui. Et c'est ça qui lui donnait de l'assurance. Et c'est un rappel tellement important pour nous, parce que sans ce rappel, nous allons avoir peur. Nous allons hésiter. Si moi, je n'ai pas ce rappel, moi, je ne vais pas parler lorsque je devrais. J'aurai peur de mal m'exprimer, de ne pas avoir toutes les réponses aux questions que les gens se posent. Mais Jésus nous montre ici qu'il n'est pas question toujours de répondre à toutes les questions. Il y a un temps, il y a un moment pour répondre aux questions que les gens se posent. Mais que nous n'ayons pas toutes les réponses, ce n'est pas grave. Nous avons la réponse essentielle, c'est Dieu. Et Jésus dirigeait les personnes vers Dieu. Jésus se rend compte dans ce passage et il nous montre l'exemple que le témoignage que Dieu rend de lui-même et de ses œuvres est suffisant. C'est tout ce dont nous avons besoin. Et lorsque nous prenons cette parole et nous disons « voici ce que déclare Dieu », cela est puissant. Certains vont dire, mais ce ne sont que des paroles sur une page, c'est un livre, quelle puissance peut-il avoir? Et bien sûr, nous savons, et il faut se le rappeler, il ne faut jamais douter, la parole de Dieu est puissante. Et si elle est puissante, il faut s'en servir. Il me semble, j'ai déjà raconté ceci dans une prédication il y a quelque temps. Peut-être vous le savez, moi j'aime bien les films d'action. Et lorsque j'en regarde, parfois il arrive qu'un gars, eh ben, il pourchasse quelqu'un, il n'a qu'un simple pistolet à la main. Et puis il poursuit un méchant qui laisse tomber une grosse arme. Et puis le gars, il passe à côté, il ramasse même pas. Il reste avec son pistolet. Et je me dis, mais il est malade. Non mais le pauvre, pourquoi est-ce qu'il ne laisse pas son pistolet qui ne lui sert pas à grand chose finalement et ne ramasse pas cette arme qui pourrait lui être tellement plus utile? Ça me frustre à chaque fois. Et si vous regardez les films d'action, c'est assez récurrent. Bon. Là, entre les mains, nous avons la meilleure arme au monde. Et nous ne nous en servirons pas. On se rabattrait sur des raisonnements humains. On aurait peur que les gens soient plus instruits et plus de réponses que nous. Et je me mets là-dedans. Nous avons le témoignage de Dieu derrière nous. Alors, qu'est-ce qui peut être plus fort que ça? Rien. Alors, utilisons cette parole. Aussi, dans ce passage, en plus de cette assurance sur le témoignage de son Père, Jésus va nous montrer quelque chose à partir de verset 37. À partir de verset 37, Jésus va dire ceci. « Le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face et sa parole ne demeure point en vous. » Ici, il fait référence, et les Juifs de son époque auraient très bien compris, il fait référence à l'apparition de Dieu sur le mont Sinaï. Il renvoie à Dieu qui se révèle de façon dramatique à son peuple, et il dit, ben, vous n'étiez pas là. Ça, ce sont vos ancêtres. Vos ancêtres ont vu. Vous prenez le livre d'Exode, Moïse, ainsi que Josué et 70 anciens, ils ont vu, ils ont mangé avec Dieu. C'est quelque chose d'incroyable. Mais des personnes ont vu Dieu. Mais Jésus dit à ces chefs religieux, vous ne l'avez pas fait. Vous vous appuyez tout simplement sur ces témoignages-là, mais finalement, vous n'avez pas de relation vous-même avec Dieu. Et il dit, c'est ça votre problème. Et fin de verset 38, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et puis verset 42, je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Verset 44, comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul. Et à la fin de verset 46, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit à mon sujet, mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Jésus montre à travers ces versets qu'il comprend très bien que ces personnes, sans l'aide de Dieu, sont dans l'incapacité, c'est-à-dire ils ne peuvent pas du tout comprendre réellement ce qu'il était en train d'expliquer. Et ainsi, Jésus ne devient pas frustré avec eux. Et je trouve ceci remarquable de la part de Jésus. Jésus est rarement frustré, énervé dans les évangiles. Alors qu'il y a de quoi être frustré et énervé. Il est frustré le plus souvent avec ses propres disciples, même pas avec les chefs religieux. Les chefs religieux, il n'est pas frustré avec eux, il y a finalement plus de compassion pour eux, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont dans l'erreur. Et nous avons beaucoup à apprendre de Jésus à ce niveau-là, puisque les gens qui sont en face de nous, les gens envers lesquels nous témoignons par moments, ben souvent ils restent fermes dans leur position, ils ne bougent pas du tout, ils restent indifférents, commencent même à devenir hostiles, refuse totalement, et si nous ne faisons pas attention, cela peut nous pousser à réagir de la même façon, à être frustrés avec eux, de nous mettre même en colère, de nous remonter contre eux en disant « Mais je vous annonce la vérité, croyez-la, mais qu'est-ce que vous faites? C'est tellement ridicule que vous vous attachez à une religion ou à des rites ou à toutes ces choses. » Et Jésus, il leur explique tout simplement qu'ils étaient dans l'erreur, mais ils ne s'en portent pas. Il n'est pas frustré, c'est plus de la compassion, parce qu'ils sont dans l'erreur. Et au verset 47, à la fin de ce passage, quand Jésus dit « Si vous ne croyez pas à ces écrits, c'est-à-dire les écrits de Moïse, ils avaient déjà quelque chose entre les mains. » Il dit, comment croirez-vous à mes paroles? En sous-entendant, vous ne pouvez pas. Si vous n'avez pas encore fait confiance, si vous n'avez pas réellement compris déjà ce que Moïse a reçu de la part de Dieu en tant que révélation, ben, comment est-ce que vous allez pouvoir comprendre et accepter ce que moi je vous apporte? Et de comprendre que beaucoup qui sont autour de nous sont dans ce cas de figure. Et ça doit nous pousser à la compassion. Lorsqu'il y a opposition, lorsqu'il y a hostilité, quelle est notre première réaction? C'est de se dresser un mur, de se préparer au combat, n'est-ce pas? Mais à l'exemple de Jésus, lorsque sur le témoignage, lorsque nous annonçons la vérité et il y a hostilité, objection, lorsqu'il y a ce rejet, au lieu de dresser un mur, au lieu de se préparer au combat, demandons à Dieu de la compréhension. Demandons à Dieu de la compassion. Comprenons, tout comme Paul va dire dans la deuxième épître aux Corinthiens, que Satan est activement en train d'aveugler les yeux des inconvertis pour qu'ils ne viennent pas à la vérité. Imaginez-vous, Satan fait un travail aujourd'hui dans le cœur des gens qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, pour les empêcher activement à venir à Dieu. Vous imaginez? Alors, au lieu de la frustration, de la colère, que Dieu nous remplisse de compassion, d'amour pour ces personnes, et puis qu'il nous remplisse de persévérance. Parce que ici, Jésus va parler avec les chefs religieux. Il va leur expliquer un ensemble de choses. Au chapitre 6, on va voir un peu la même chose. Et puis par la suite, à bien des reprises, Jésus, à travers son ministère, va avoir pas mal de discussions avec les chefs religieux. Et il semble, à travers les 3 années de ministère, que très peu ont compris ce qu'il disait. Combien parmi les chefs religieux? Moi, je pense à 2 hommes, Nicodème et Joseph d'Arimathée. 2 hommes qui faisaient partie un peu des nobles, des chefs religieux, des personnalités de l'époque. 2 hommes qu'on a de nom. Parmi toutes les personnes que Jésus a enseignées. Il y en avait sûrement d'autres. Et par la suite, toutes les personnes que nous voyons dans le livre des Actes qui ont été touchées à Jérusalem, c'est probablement aussi la suite du ministère de Jésus. Ils avaient vu Jésus, ils avaient entendu parler de Jésus et donc se convertissent par la suite. Mais nous voyons tous les échanges, tout l'enseignement que Jésus donne et aux yeux des hommes, tellement peu de fruits. Quelques personnes, c'est tout. Et pourtant, Jésus a continuer. Il rencontre de l'opposition ici. Il va en rencontrer plus tard. Est-ce qu'il s'est arrêté? Non. Il a continué et il était toujours rempli de compassion et d'amour pour ces personnes. Et au verset 44, comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire des uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Lorsque nous comprenons que c'est la condition de la plupart des gens autour de nous, comment être en colère contre eux? On peut dire presque que ce n'est pas de leur faute. Bon, ils sont responsables devant Dieu, que ce soit clair. Mais comment? Comment peuvent-ils croire? Ils ne peuvent pas, si ce n'est pour la grâce de Dieu qui agit dans leur vie. Et de se souvenir que vous et moi, nous étions dans le même cas de figure. Nous sommes sauvés, non pas parce que nous sommes quelque chose, non pas parce que nous avons cherché Dieu. Non, c'est Dieu qui nous a aimés le premier. C'est lui qui nous a attirés à lui. Et si ce n'est pour la grâce de Dieu, ce verset 44, il nous décrit nous. Comment pouvons-nous croire? Impossible en dehors de Dieu. Alors les gens autour de nous ne sont pas pires que nous, ne sont pas meilleurs. Ce sont des pécheurs qui ont besoin d'être sauvés de la perdition éternelle. Et lorsque nous voyons Jésus qui prend l'autorité de son Père et face à des personnes hostiles, des personnes incompréhensives, des personnes qui finalement ne voulaient pas l'écouter, le suivre, il leur met devant l'évidence que Dieu est à l'œuvre. Et il dit, vous avez un choix à faire. Le salut se trouve auprès de Dieu. Et vous êtes proche, verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Finalement, ils cherchaient dans le bon endroit. Ils avaient la loi. Ils connaissaient les lois de Dieu. Et finalement, tout en étant si près, ils étaient si loin. Et lorsque nous regardons l'exemple de Jésus ici, qu'est-ce que nous découvrons? Nous découvrons son persévérance, sa persévérance, son amour, sa compassion. Et nous apprenons qu'il dirige, lui le Fils de Dieu, il dirige les personnes vers Dieu. Et voici l'exemple pour nous à suivre. Nous ne serons peut-être pas face aux chefs religieux. Nous n'irons pas parler au pape. Nous n'irons pas parler au grand imam de je ne sais pas quel pays. Nous n'irons pas parler au grand rabbin en Israël ou le grand rabbin à Paris. Nous n'irons peut-être même pas parler à l'évêque ici, dans ce coin, au prêtre, au curé. Mais nous avons des collègues de travail. Nous avons des gens autour de nous, des connaissances, des membres de la famille, des personnes que nous connaissons plus ou moins, qui ont besoin d'entendre ce message que Jésus annonce. Et moi, le premier à dire, et vous le vivez peut-être encore plus que moi, il est décourageant par moments de voir les gens résistants, de voir les gens qui continuent de refuser, alors qu'on apporte les arguments, alors qu'on apporte des réponses, les gens qui catégoriquement refusent. Et dans ces moments où nous serions tentés de baisser les bras et de dire, finalement, ça ne sert plus à rien. Je ne pourrai jamais convaincre telle ou telle personne, ce qui est vrai, ce n'est pas nous qui convaincrons, c'est Dieu. De se souvenir que Dieu est notre autorité. Et nous allons annoncer son message. Et peu importe qui est devant nous, que ce soit celui qui fait le ramassage dans la rue, que ce soit le président de la République, que ce soit n'importe qui, nous annonçons le message du salut en Jésus-Christ. Et les gens peuvent croire ou ne pas croire. Mais ce message, il est vrai. Et il doit être annoncé. Alors la question se pose à nous. Est-ce que je suis persévérant? Est-ce que je le fais? Est-ce que je m'appuie sur Dieu aujourd'hui pour qu'il m'aide à toujours annoncer ce message? Ou est-ce que je m'appuie sur moi-même et sur, entre guillemets, mon propre témoignage, mes études, mes connaissances? Jésus ne l'a pas fait. Il va vers son Père et il dirige chacun vers son Père. Alors, si Jésus l'a fait, comment est-ce que nous pouvons croire que nous ferions mieux que cela? Non, nous savons ce que nous devons faire. C'est suivre son exemple et peu importe qui est devant nous, de les diriger vers Jésus. De dire, voici le chemin. Jésus est le chemin, le seul, la vérité. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas 2000. La vérité, la vie éternelle. Alors, est-ce que c'est ce message que nous annonçons? Est-ce que nous l'avons annoncé la semaine dernière? Nous aurons des occasions de l'annoncer cette semaine qui arrive. C'est sûr et certain, nous aurons les occasions. Est-ce que nous allons les saisir? Est-ce que nous allons rendre témoignage de Dieu et nous appuyer sur ce que lui, il dit dans sa parole en suivant l'exemple de Jésus? Voici ce que Dieu veut de nous. Voici sa volonté pour nous cette semaine. Voici ce que Jésus, son exemple, nous montre. Voici ce que nous découvrons de lui dans ce passage. Alors, faisons-le pour la gloire de Dieu. Mais nous avons besoin de l'aide de Dieu pour cela. Nous allons la demander, cette aide, dans la prière. Alors, inclinons-nous pendant quelques instants pour demander son aide. Oui, Seigneur, nous te remercions que Jésus a vécu cette vie parfaite et qu'il nous donne cet exemple que nous pouvons suivre, ces traces dans lesquelles nous pouvons marcher. Merci pour ton message d'amour, de pardon que tu donnes. Merci que tu nous permets de parler de cela autour de nous. Nous avons besoin de ton aide, de ton courage, de ta force pour aller de l'avant, pour parler aux gens qui sont autour de nous, pour leur donner l'espérance qui se trouve en toi. Seigneur, que tu nous aides à toujours nous appuyer sur toi, toujours t'avoir dans nos pensées, dans toutes nos interactions. Nous sommes faibles, Seigneur, mais avec toi, nous sommes plus que vainqueurs et personne ni rien ne peut se tenir devant toi lorsque toi tu agis. Qu'il soit évident dans la vie de chacun d'entre nous que tu es à l'œuvre aujourd'hui, à travers chaque jour de cette semaine devant nous, et ainsi que tu puisses recevoir toute l'honneur et toute la gloire pour ce que toi tu feras. C'est en ton nom que nous prions. Amen.